Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur votre radio locale. Bienvenue à bord de votre émission littéraire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour la deuxième et dernière partie de la conférence que Serge Moreau avait donnée à Tonnerre en mars 2011. Serge Moreau est poète et romancier. Il est né dans le Chablisien en 1929. Il réside à La Roche-Saint-Sidoine. Il est l'auteur d'un premier roman paru il y a plus de 10 ans aux éditions de l'Armançon. Un premier roman qui avait pour titre « Un petit train noir au temps des Doriforts ». Un roman qui a un lien avec le thème de la conférence qu'avait donné Serge Moreau, puisque Serge Moreau évoquait le théâtre français sous l'occupation. Et Un petit train noir au temps des Doriforts est l'histoire, en fait, d'une jeune femme originaire de Noyers-sur-Serein qui est devenue une actrice célèbre. Elle habite Montmartre et, pendant l'occupation, elle va rencontrer Laurent qui va être le régisseur de la propriété de campagne de cette célèbre actrice de cinéma et de théâtre qui s'appelle Solange Vaupin. Et dans ce premier roman, paru aux éditions de l'Armançon et que l'on peut consulter en bibliothèque, dans ce premier roman, Serge Moreau mêle des éléments autobiographiques et historiques pour décrire ce climat délétère propre aux années d'occupation où l'on croise figures célèbres au comportement louvoyant et anonymes œuvrant dans l'ombre. L'auteur avait d'ailleurs signé là un premier roman alerte et généreux. Serge Moreau a été récompensé par la société New Works en recevant la médaille d'or de l'Académie internationale de Lutèce pour « Chants des rues et poèmes des champs ». Serge Moreau avait aussi fait paraître en 2009 aux éditions de l'Armançon, et nous l'avions d'ailleurs reçu dans Wagon Livre, un petit dictionnaire atypique des poètes de langue française à l'usage des amateurs et des curieux. Un ouvrage particulièrement riche et intéressant que l'on peut trouver soit d'occasion ou alors consulter en bibliothèque puisque, comme vous le savez, les éditions de l'Armançon n'existent plus depuis l'année dernière. Alors sans tarder, nous écoutons Serge Moreau pour cette deuxième partie de conférence consacrée au théâtre français pendant l'occupation. Une conférence enregistrée il y a longtemps maintenant, puisque c'était en mars 2011, à la ferme de la Fosse Dionne à Tonnerre. Serge Moreau.
Il y a des pièces qui ont un succès terrible et qui ne s'arrêtent pas. Hyménée, on joue la 400e représentation consécutive. Une jeune fille savait, qui a été terminée en camp de concentration. L'auteur, c'est André Haguet. Il a été dans un stalag, pas de concentration, stalag, c'est déjà pas mal. Elle arrive à la 250e au Bouffe Parisien. Vous voyez, comme disait l'autre, qu'on allait au théâtre parce qu'on avait envie de se divertir. Et puis, Pagnol, on ne parle pas de Pagnol. C'est quand même un grand maître du théâtre. Eh bien, Pagnol n'a rien fait, n'a pas voulu collaborer. J'en parle quand je parle du cinéma et qu'on va le trouver chez lui et qu'il dit non, je ne veux pas faire de cinéma. Pagnol n'a rien fait. Il n'a pas écrit de pièces, rien. Mais il avait des pièces qui marchaient, il ne pouvait pas les retirer. Et toujours pareil, il faut bien que les comédiens vivent, hein, parce que c'est la principale chose. Eh bien, sa pièce Topaze, elle a tenu plus d'un an. Plus d'un an. À l'affiche du théâtre de Paris. Vous vous rendez compte? Bien. Et puis, alors, bon, alors, il fallait des autorisations pour jouer. Et tous les 6 mois, tous les comédiens, dès 42, devaient aller demander leur autorisation, qu'on renouvelle l'autorisation. Il y avait des bureaux, etc. Eh bien, une dame, comme Viviane Romance, qui a osé dire quelques petites bricoles, on lui a interdit 2 fois de jouer. Elle a été interdite près d'un an de jouer parce qu'elle avait, Viviane Romance, on sait très bien, qu'elle cachait pas ce qu'elle pensait. Bien. La censure est à des mesures répressives et des manifestations bruyantes contre les pièces qui déplaisent. Jean Guéhenot note dans son journal « Débordement de la sottise. 2 acteurs de cinéma avaient monté une pièce à Édouard VII, Andromaque. Leur interprétation de la pièce a semblé immorale. Andromaque est interdite. Le matin, les journaux publient la note suivante. Tenez-vous bien. Pour vous dire l'atmosphère, hein, comment voulez-vous qu'on n'ait pas peur, qu'on ne croit pas... Bon. La milice française est soucieuse de la protection intellectuelle de la France, ainsi que de la moralité publique. C'est pourquoi le chef régional de la milice française d'Île-de-France a prévenu le préfet de police qu'elle allait s'opposer à la représentation de la pièce scandaleuse de messieurs Jean Marais et Alain Cuny. Et monsieur le préfet de police a pris un arrêté interdisant immédiatement la pièce. Et le ministre d'État a l'information de considérer les deux acteurs comme aussi coupables que les Américains destructeurs de cathédrales. Il faut quand même oser pour écrire ça. Eh bien voilà dans quelle atmosphère nous vivions. Moi, à la campagne, ben nous vivions les gens qui étaient dangereux à l'époque. Comment voulez-vous être tranquille? Et on se demandait même, quelquefois, il y a eu des arrestations sur scène. Sans compter, alors puisqu'on parle du théâtre, de plus en plus, pas de chauffage, de moins en moins de la lumière, les bombardements coupaient les lignes, et c'est là... toujours dans le dernier métro, et c'est vrai, qu'on voit des cyclistes gagner leur vie en pédalant dans les coulisses pour faire marcher les lumières. Alors, de temps en temps, quand ils étaient fatigués, les lumières baissaient. On l'engueulait le gars, et le gars, il redémarrait pour... et on voyait la lumière qui remontait. Bien. Alors, donc, des gens font des jeux de mots un peu sur tout le monde. Il y a un petit malin qui a dit de Sacha Guitry qui n'avait pas fait la guerre de 14-18, il s'était fait réformer. Et il était trop vieux, bien sûr, en 40. Et il a joué sur tous les théâtres d'Europe, sauf sur le théâtre des opérations. Alors, vous voyez, si Guitry était content avec ça. Bien. Bon, ça ne l'a pas empêché de ce que je vous dis. Le 12 octobre 43, il a fait libérer Tristan Bernard, qui était juif. Et on a demandé à Tristan Bernard, de quoi avez-vous besoin? Et Tristan Bernard, toujours plein d'humour, a répondu « J'ai besoin d'un cache-nez ». Bon, et alors, les troupes... Alors, il y a des troupes qui tournent en province, bien sûr. Parce que, bien sûr, il y a des comédiens, souvent pas très bons. Les meilleurs sont pris là, parce qu'on a pléthore de comédiens, puisqu'on joue pas beaucoup, le cinéma joue quand même. Mais il y a pléthore de comédiens, et tout le monde est prêt à faire n'importe quoi pour gagner son beefsteak. Bon, eh bien, il y a des comédiens qui vont tourner. Et il y a des comédiens, la compagnie des comédiens de France, qui démarre dès 41 et qui la dirige. Deux personnes que vous connaissez bien, nos compatriotes, si on peut dire, Jean Nohain et Claude Dauphin. Pour ceux qui ne le connaîtraient, ne le sauraient pas, savez-vous que Jean Nohain, il est originaire, son père est d'Antin, Antrain sur Nohain. D'où le nom de Jean Nohain. Le père, c'était un, était percepteur à Antrain sur Nohain. Et il écrivait des fables, qui sont encore célèbres, et des pièces de théâtre. Il a voulu tenter sa chance à Paris et faire des revues, ce qu'on appelait le revuiste. C'était des revues, c'était des tableaux avec quelques filles dénudées. Ou des... C'était comique en général, et il y avait un fil conducteur. Bon, et... je sais plus le nom de Jean Nohain. Non, on ne peut plus français, excusez-moi. Bon, et alors... Il a quitté Antrain sur Nohain, et comme à l'époque, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de porter leur nom, comme Pierre Loti, c'était Julien Viau. On ne pouvait pas avoir son nom sur un livre. Bon. Et alors, ils ont choisi Franc parce qu'il se sentait français, et Nohain parce que c'était la rivière, enfin, un petit ruisseau, qui passe à Antrain sur Nohain. Et les enfants, surtout... Jaboun, Jean Nohain, a pris le nom de son père et il a démarré avec son frère Claude Dauphin, ils ont démarré sur les routes de France. Je vais faire un bond de quelques années, ils disparaissent, la troupe disparaît. Et que voit-on? Jean Nohain, adjudant, chef de char, croix de guerre à Strasbourg, où il perd un œil. Et là, on le voyait bien, Jean Nohain, il avait un œil. Bon, il l'a perdu à Strasbourg. Et son frère, Claude Dauphin, capitaine interprète dans la division de Delattre. Et Claude Dauphin le raconte avec émotion. Il était dans une Jeep, il était capitaine, il était dans une Jeep, et les gens qui allaient au cinéma ont commencé à le connaître déjà avant-guerre. Et alors, ce qui l'a ému le plus, c'est qu'il y a des gens qui disaient, ils ont même des comédiens. Et pour les gens, de voir les troupes libérateurs avec des comédiens, il y a des gens qui en pleuraient, vous comprenez? L'émotion était de partout. On rigolait de tout, on cherchait le moral. Moi, il y a des gens qui n'ont pas compris. Je vais vous faire un petit jeu de mots qui, à l'époque, faisait rigoler tout le monde. Je posais une question dans une famille très française, le soir, auprès du feu, à la veillée. Hein, il y a un monsieur qui lit le journal. Bon, c'est monsieur Pétain. Il lit le journal. C'est une famille très française, les Pétains. Hein, un couple, il y a monsieur Pétain. Et que peut faire madame Pétain dans une famille très française pendant que le mari lit le journal? Elle coupe. Madame Pétain-Coup. Eh bien, vous rigolez, mais hein, rien nous faisait rire. Et on se racontait ça, on était heureux, on en avait pour la journée. Ça vous fait rire maintenant, de bêtises peut-être, mais on se raccrochait à tout, on se raccrochait à tout pour soutenir le moral.
Serge Moreau pour un extrait d'une conférence enregistrée à Tonnerre en mars 2011 et qui avait pour thème le théâtre français sous l'occupation. Au début de cette émission, je vous ai parlé du premier roman de Serge Moreau paru aux éditions de l'Armançon. C'était en 2003-2004. Un roman intitulé « Un petit train noir au temps des Doriforts » où Serge Moreau met en scène des comédiens, notamment une Solange Vaupin, originaire de Noyers-sur-Serein, célèbre actrice de cinéma et de théâtre et qui vit à Montmartre à Paris. Je voudrais vous donner lecture d'un extrait du roman parce que cela a un lien complètement étroit avec le thème de la conférence que nous vous diffusons aujourd'hui. Donc, la comédienne Solange Vaupin recevait peu et seulement des amis sûrs, organisant des repas simples de 7 à 8 couverts certains jours de relâche. On brocardait ces soirs-là les grands raouts, tels ceux du baron Empin, donnés en son château de Bouffémont. Là se côtoyaient différentes parties du monde artistique, littéraire et politique. En ces soirées, Corinne Luchère, en particulier, jeune et belle comédienne, fille du directeur des Nouveaux Temps, Jean Luchère, épousait fréquemment quelques bels officiers supérieurs et de haut lignage. Chapitrée par Laurent, Solange évitait autant que le permettait son personnage les mondanités, les réceptions officielles où flottait irrémédiablement l'odeur de l'occupant. Artiste aux différentes spécialités, journaliste, homme de lettres, chevalier d'industrie de tous bords, remplissait inaugurations, vernissages, défilés de mode, restaurants de luxe et grandes maisons privées comme celle de Sacha Guitry où l'on mangeait très bien ce qu'il payait très mal. Un jour, Alice Cosséa, faisant quelques confidences à Solange, lui dit « Je n'ai pu refuser une invitation à l'ambassade d'Allemagne. J'y ai rencontré presque le tout Paris du spectacle. » Sauf vous, ma chère. Beaucoup étaient soumis comme moi aux obligations qu'imposent nos servitudes théâtrales. J'y ai rencontré Edwige Feuillère, Marguerite Jamois, Marie-Belle, Dulin, Jean Sarment, Gaston Batty, André Luguet et j'en passe. Ah oui, aussi, fait exceptionnel, je n'y ai pas vu Guitry. Il était peut-être avec vous, finit-elle en riant. Rassurez-vous, nous n'étions pas ensemble. Peut-être avait-il un rhume. Quand Solange racontait cette anecdote parisienne à ses amis, pas tous du spectacle, elle finissait en disant « Quel bonheur pour l'instant de jouer sans cesse, quelle belle excuse. Je ne suis jamais libre le soir et toujours trop fatigué les jours de relâche, car il me faut encore dans l'après-midi fignoler un enregistrement, faire une radio, répondre à une interview souvent idiote ou courir pour essayer une robe signalée par Jeanne-Marie. » Sans parler des papiers et des autorisations à renouveler. Heureusement que j'ai Adrien. J'ai quand même dû aller dernièrement à un repas chez le doyen, invité par Alfred Greven, le patron de la Continentale. Il veut m'avoir dans un film qu'il a en vue. Nous étions 6 et j'ai calculé que le repas avait coûté plus que le mois d'un de nos machinistes. C'est fou. Ce que racontait Solange se généralisait aussi dans les villes occupées. Ce qui se passait dans les salons, à l'ambassade ou chez le baron Empin, on le revoyait en province, dans les théâtres, les grandes maisons, les préfectures, sous-préfectures, certaines mairies où vedettes locales, gros bonnets, belles dames, hommes d'affaires, petits voyous côtoyaient les officiers supérieurs locaux. À Paris, ça grenouillait aussi dans les grandes rencontres sportives. Si, pour certains, toutes ces mondanités plutôt futiles devenaient nécessaires, facilitant leur travail, pour beaucoup d'autres, se montrer, faire parler de soi, côtoyer les maîtres du régime n'avait aucune raison matérielle. De nombreux artistes, naïfs, ignorants ou avides de publicité et de grandeur, s'étaient déjà fait remarquer, comme des écrivains, des intellectuels et autres gens bien placés dans le vent de l'époque qui soufflait particulièrement de l'Est, ils avaient pris à leur tour le chemin de l'Allemagne. Ce n'était pas systématiquement pour aller distraire les prisonniers dans leur pauvre camp, tels Édith Piaf ou Maurice Chevalier. Celui-ci venait de se rendre dans le Stalag où 24 ans plus tôt, il se trouvait prisonnier. Cette action lui permit de faire libérer de nombreux soldats âgés ou handicapés. Sans aucun doute, à cet instant, son geste chaleureux reflétait sa sincérité, mais la propagande nazie en profitait, en relatant son voyage, en usait et en rajoutait. La vie mondaine ne se concentrait pas uniquement sur Paris, où pourtant elle vibrait intensément. Ainsi, Marie-Laure de Noailles recevait dans son intérieur luxueux, décoré de toiles de Goya, Rubens, Véronèse, tandis que Marie-Blanche de Polignac, sa grande rivale, en faisait autant. L'une et l'autre s'arrachant les vedettes de l'époque, qu'il fallait absolument inviter un jour chez soi. Mais le salon le plus couru, le plus recherché et de loin le plus fermé se trouvait sans aucun doute être celui de Florence G. Gould. Femme du roi du chemin de fer des États-Unis, ex-reine de la Côte d'Azur, la milliardaire recevait dans son somptueux appartement de l'avenue Malakoff le gratin du gratin. En même temps, mais bien moins nantis, d'autres artistes se retrouvaient simplement. Ainsi, cette amicale réunion où rue du Beaujolais, Arletty, François Perrier, les Gallimard, Marcel Achat, Francis Poulenc et Solange, libres par hasard ce jour-là, se réchauffaient à l'aide d'un mauvais thé, évidemment saccharinée, et de quelques gâteaux cotonneux. Certains journalistes du spectacle, dont Strator se méfiait comme de la peste, collaboraient totalement, imitant quelques chefs de file de l'intelligentsia tels que Brasillac, Rebattet, Drieu-La Rochelle, Céline et autres, qui partaient pour la plupart en Allemagne, voyage organisé par le lieutenant Heller de la Propaganda Staffel. Laurent écoutait sagement, car chaque corporation parle d'abord de ce qui gravite autour de son métier. Et le métier de Laurent, pour l'instant, était tout autre. Cependant, on le questionnait souvent sur la vie à la campagne et les difficultés que les villageois pouvaient rencontrer. Mais on évoquait assez peu la guerre en tant que fait, car toujours très lointaine sur le plan des hostilités en cet automne 1942, la victoire des Alliés n'apparaissait pas comme absolument évidente. Chaque petite nouvelle heureuse devenait une pierre d'espérance que l'on posait délicatement sur la précédente. Cependant, le mur ne montait pas très vite et on revenait inévitablement aux problèmes journaliers du comédien. Que faire pour pouvoir jouer, tourner, chanter, faire du cabaret, du musical, du théâtre, du cinéma? Avoir les sacro-saintes autorisations? Un jour, on contacta sérieusement Solange pour une grande tournée en Allemagne dont elle serait la vedette. Dans le même temps, elle chantait dans une émission radiophonique avec Raymond Legrand. Elle lui parla de ce projet, heureuse d'aller chanter pour les prisonniers. Raymond Legrand, plutôt échaudé par son expérience, lui expliqua que cette tournée représentait un danger de récupération, surtout pour elle, déjà si connue en Allemagne par ses films. Quelques jours plus tard, à son grand étonnement, Albert Schoerle, qui passait rapidement la voix, lui déconseilla le voyage. Pourquoi ? Il ne précisa pas. Prudence. La semaine suivante, Laurent finit par l'en dissuader. La mort dans l'âme, elle accepta en revanche, pour ne plus être importunée, le projet avec la Continentale, mais toujours ennuyée de ne pas aller porter un peu de bonheur chez les prisonniers, elle s'arrangea avec sa maison d'édition pour faire envoyer 1000 disques dans les Auflag et les Stalag. Un soir, Solange reçut dans sa maison de la rue Simon d'Erreur M. Christian Maudet, plus connu sous le pseudonyme de Christian Jacques, originaire lui aussi de Noyères-sur-Serein. Dans la longue conversation d'après-repas, on parla un instant d'un film à peu près ignoré, tourné à Noyères-sur-Serein, bien avant la guerre, au tout début du parlant, Le Père Lampion. Christian fit rire tous les convives en racontant que, n'ayant pas assez d'argent, il avait embauché gratuitement les notables de la petite ville pour jouer les troisièmes rôles et les figurants intelligents. Et le notaire, ce brave homme, avait fait un chauffeur de maître remarquable. Il fut décidé ce soir-là que Christian, lui-même en contrat avec la Continentale, ferait un film avec Solange. Mais impossible avant fin 43, tant leur emploi du temps se trouvait chargé. Je viens de vous lire un extrait du roman de Serge Moreau, Un petit train noir au temps des Doryfort, dont l'action se situe dans le milieu artistique du théâtre et du cinéma à Paris. Et nous sommes sans cesse en va-et-vient entre Paris, Lyon et notamment Noyères-sur-Serein que Serge Moreau connaît bien. C'est Wagon Livre sur Radion, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de la conférence de Serge Moreau consacrée au théâtre français sous l'occupation. Tout de suite, une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'était Serge Moreau, enregistré en mars 2011 à Tonnerre, alors qu'il donnait cette conférence consacrée au théâtre français sous l'occupation et que nous vous proposons aujourd'hui dans sa quasi-intégralité à bord de Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque, si vous le voulez bien, une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de ce passionnant sujet consacré à la vie artistique, intellectuelle et le théâtre français sous l'occupation. Conférence donnée par Serge Moreau.
Alors, il y avait une compagnie qui s'appelle la compagnie Regain, très bonne compagnie, qui démarre en 1941 et qui avait un jeune directeur, qui était comme par hasard le frère de la dame dont je vous ai parlé, qui sortait du conservatoire et qui était Christian Casatsu. Et Christian Casatsu forme une troupe qui va jouer en zone, en France, du Molière, du Marivaux, du Musset. Que du classique. Et il y a les tourneurs. Alors un dénommé Gérard Philippe qui commence à tourner, il se plaint de mal manger et raconte qu'il faisait le soir après le spectacle 2-3 restaurants pour manger dans un endroit des poireaux, dans un endroit des rutabagas, dans un endroit des pommes, et ils arrivaient à peu près à calmer leur faim avant d'aller se coucher l'hiver dans des hôtels glacés. Il y a René Lefebvre qui tourne avec Jean de la Lune une pièce de Marcel Achard. Et faute d'essence, ils prennent des trains. Alors faut calculer avec un rendez-vous d'une autre ville, faut calculer. Et dans une ville du Midi, il y a un train qui passe pas et toute la troupe attend. Et René Lefebvre, il dit au chef de gare, mais quand est-ce qu'il passe votre train? Le chef de gare répond, il passe quand il a un moment. Bon, dans les rues de Paris, on a peur de tout, et pendant qu'on joue des opéras à l'opéra ou ailleurs, on en joue, on l'a vu dans tout Paris, et l'ambassadeur Debrinon, qui était un véritable vilain monsieur, et les préfets représentent les autorités françaises dans l'attitude de la vassalité, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est le journal Comédia qui raconte toutes les belles sorties, des bonnes soirées qui sont faites, il relate tout. Mais il y a des pièces qui n'ont pas d'ennui. Vous pensez bien que Fifi, la veuve joyeuse, Occupe-toi d'Amélie, le mariage de Mademoiselle Belmans, on ne va pas vérifier ça parce qu'on sait que ce sont des pièces anodines. Mais à un moment donné, le lieutenant Rollemaker, qui est le chef de la censure, qui est une belle ordure, et après il est remplacé par un autre monsieur qui vaut guère mieux, eh bien, il fait la chasse aux Juifs, et va. Alors c'est eux qui vont arrêter Haribor, parce qu'un nom comme ça, c'est peut-être un Juif, on ne sait pas. Mais pour être plus tranquille, on l'arrête. Comme ça, il vaut mieux arrêter deux qui ne sont pas Juifs que de laisser courir un Juif. Alors Haribor, on va réussir, grâce à Sacha Guitry, à le faire sortir aussi, mais il a été torturé, il a été battu. Haribor, qui, attendez, deux mois avant, on le voit recevoir le plus grand acteur allemand, qui est Georges, excusez-moi. Et même Charles Trenet est considéré comme juif. Il faut qu'il prouve qu'une grand-mère, faut qu'il retrouve presque les actes de baptême des grands-mères, comme ça, pour montrer qu'on n'est pas juif. Ça devient de la folie. Et là-dessus se greffent tous les gens qui dénoncent. Parce qu'on dénonce à tour de bras pour faire bien, parce qu'on déteste son voisin, et il y a des concierges qui ont été héroïques, et il y a des concierges qui étaient des vrais garces. Un tel, il a fait ceci, il m'a pas donné la pièce à Noël, je te le dénonce parce qu'il avait une écharpe rouge. Voilà un exemple. Et il y a des difficultés énormes. Et bon, je vais m'arrêter avec ça, et parce qu'on va passer aussi à une jeune fille, il faut en parler, qui s'appelle Corinne Luchère. Corinne Luchère a été célèbre juste avant la guerre parce qu'elle avait 18-19 ans, parce qu'elle a été la vedette d'un film qui a eu un succès terrible qui s'appelait « Vedette sans barreau ». C'était des prisonnières qui... Moi, j'ai jamais vu le film, mais ça a eu un succès terrible. Et c'était la fille de Jean Luchère. Jean Luchère, qui était déjà un journaliste d'extrême droite avant-guerre et qui s'est trouvé tout de suite à la pointe de la collaboration. Tout de suite, je veux dire, il a été fusillé. Rassurez-vous, il y en a eu quelques-uns. Et sa fille, Corinne Luchère, elle était bien sûr, elle avait trouvé le moyen dès juin 40, elle a été arrêtée par l'arrivée des Allemands en Bretagne. Eh bien, 8 jours après, elle arrivait, grâce à son amitié d'officier allemand dont elle a fait connaissance en 8 jours, à se faire amener à Paris. Et pendant 4 ans, ce qui est bizarre, elle qui aurait pu jouer dans toutes les pièces, dans la tête partout, parce qu'elle était belle, elle jouait bien, elle n'a rien fait. Elle n'a passé qu'à faire la fête. Et dans le château du baron Empin, en banlieue parisienne, elle choisissait tous les soirs l'officier avec qui elle allait passer la nuit. Alors elle a eu un enfant quelque temps après, elle est partie en exode avec Pétain, avec Luchère, avec tous les autres, et on les a rattrapés. Il y avait aussi Céline qui s'est sauvée avec son chat, Bébert, et puis sa femme. Et Céline a écrit dans un château l'autre, « Nous sommes partis, la chasse au cul ». Je vous cite Céline, hein, Bon, je vais vous donner quelques petites anecdotes, ça va? On est encore dans le temps, on peut continuer? Oui? Non? Le soulier de satin, je l'ai vu, on a passé la reine morte. Bon, et on va arriver Cocteau, Guitry, les collabos, je les ai vus. Alors, on arrête Poiret. Après, je vous dis d'aller voir le dernier métro, ce qui est très bien. Et tenez, Lucien Rebattet, je vais vous citer une phrase terrible de dans « Je suis partout ».« Je suis partout », c'est un journal qui était le principal journal collaborateur et où il était, écrivait surtout un monsieur qui s'appelait Brasillac. Brasillac, on sait qu'il a été fusillé après la guerre. Et il n'a rien à dire contre le soulier de satin, parce qu'on ne va pas contre Claudel, qui est copain avec quelques Allemands, lequel Claudel écrit une ode au maréchal Pétain. Et à la libération, 3 mois après, il écrit une ode au général de Gaulle. Il a peur de rien, Claudel. Bon, eh bien, il écrit Je suis partout, que certaines personnes, comme Janson, nommaient « Je chie partout ». Je disais l'hiver dernier dans ce journal « Ma joie d'avoir vu en Allemagne les premiers Juifs marqués par le sceau jaune ». Ce sera une joie beaucoup plus vive encore de voir cette étoile dans nos rues parisiennes où il n'y a pas 3 ans, cette race exécrable nous piétinait. Alors, vous voyez comment on pouvait vivre tranquille, parce que même, juif ou pas, il suffisait que quelqu'un, mais il est juif, je l'ai vu. Vous disparaissiez. Bien. Et alors, on supprime aussi des tas de livres qui ne sont pas bons à lire. Et tenez-vous bien, il y a un grand écrivain allemand qui s'appelle Adolf Hitler et qui a écrit Mein Kampf. On supprime Mein Kampf, tout simplement parce qu'on ne veut pas que les Français puissent voir ce que disait Hitler de ce qu'il ferait de la France plus tard. La France, qu'est-ce qu'on avait à faire de la France? Eh bien, la France, en cas de victoire allemande, devait être le bordel de l'Europe, fournir les vins et la cuisine. Et même les couturiers allemands à Berlin auraient vite fait de dépasser les couturiers français. Ce à quoi un grand couturier de l'époque, entendant ça, répond « Ils peuvent toujours courir, ils n'auront jamais le coup de pouce ni l'air de Paris ». Là-dessus, on n'en parle plus. Bien. Alors, Harry Borg, je vous l'ai dit, oui, son homologue, c'était Heinrich George, avec qui on les avait présentés comme deux têtes du théâtre allemand et français. On les voit rire et boire et trinquer ensemble au buffet de l'opéra, et 15 jours après, on arrête Harry Borg, qui en mourra. Alors, il va être libéré, mais il aura tellement été choqué qu'il va mourir quelques semaines après de cette arrestation. Pendant ce temps, à l'opéra, l'opéra bouge aussi, on fait des créations et on voit apparaître des noms nouveaux dont vous avez peut-être entendu parler. On voit arriver une certaine Ludmila Tcherina, on voit arriver Janine Chara, une toute jeune qui s'appelle Renée Jeanmaire. Qui c'est Renée Jeanmaire? Eh bien, c'est Zizi Chanmaire, qui va être célèbre avec une chanson de mon ami Bernard Dimet, « Mon truc en plume ». et aussi Roland Petit, qui est né en 24, Zizi Jeanmaire aussi. Dans les théâtres, à l'entracte, pas de boisson ou du petit vin blanc, de la limonade saccharinée ou des trucs comme ça.
Serge Moreau, enregistré en mars 2011 à Tonnerre alors qu'il donnait une conférence consacrée au théâtre français sous l'occupation. Je vous l'ai dit en début d'émission, Serge Moreau a écrit un roman aux éditions de l'Armançon, un roman intitulé « Un petit train noir au temps des Doriforts ». Et je voudrais, avant la pause musicale, vous donner lecture d'un extrait de ce roman qui rappelle les conditions d'existence des Françaises et des Français et notamment la vie sous l'occupation à Paris à travers l'existence de Solange Vaupin, une célèbre actrice de cinéma et de théâtre qui fait alors rêver la France entière. Solange Vaupin se détendit enfin et fut un peu rassurée en revoyant son petit hôtel et Jeanne-Marie. Le lendemain, elle retrouvait son milieu, son monde et le métier, ce qui lui fit grand bien et chassa son abattement. Strator montait une nouvelle pièce avec une troupe formée de quelques jeunes et de deux grognards chevronnés. Le surlendemain, elle s'en fut à son rendez-vous pour la prise de contact avec l'équipe du film qu'elle devait tourner durant l'automne et une partie de l'hiver 43-44. Elle retrouvait dans la distribution quelques amis et amies, pas d'enquiquineurs connus et reconnus. Elle n'avait jamais travaillé avec Lucien Bourrois, le metteur en scène, mais elle l'estimait depuis longtemps, connaissait sa courtoisie et savait qu'il n'y aurait pas de problème humain majeur. Les problèmes techniques causés par l'état du matériel seraient bien suffisants. Tiré d'une pièce à succès de l'année précédente, Si Madame savait ça, le film devait être, sinon un chef-d'œuvre, un bon divertissement. À Solange, le rôle principal féminin, celui d'une dame du monde, ignorant la double vie de son mari. Encore une fois, ce film ne serait pas conseillé par la terrible centrale catholique. Encore une fois, les grands critiques sérieux et bien pensants diraient que Mademoiselle Vaupin se fourvoyait de plus en plus. Certains même assureraient qu'elle se perdait définitivement. Qu'importe, Solange tenait parole. Tant que la guerre durerait et si elle devait faire verser une larme, ce serait une larme de rire, avait-elle déclaré un jour dans une interview. Ce qui plut au bon peuple et lui fit une remarquable publicité. Plus de films réalistes, tristes, intellectuels, dramatiques, psychologiques, tirés ou non d'une grande œuvre littéraire. Elle laissait Balzac, Daudet, Chateaubriand, Flaubert, Maupassant à d'autres. Elle n'en avait cure, d'autant plus qu'elle savait qu'après ce film viendrait un grand film qu'elle tournerait au printemps 44 avec Christian Jacques. L'année 43 se terminait dans la monotonie du travail, la crainte, l'espoir. Une sorte de train-train monstrueux, surréaliste. Seul l'espoir grandissait. Chaque jour, malgré l'arrivée de l'hiver, apportait de bonnes nouvelles pour les Français. Avec tous leurs problèmes aux quatre coins de l'Europe, les Allemands se faisaient de moins en moins nombreux et dans les petites villes sans valeur stratégique, ils avaient complètement disparu. En revanche, ceux qui restaient cantonnés devenaient de plus en plus soupçonneux, ombrageux, durs et dangereux. Toujours professionnelle et perfectionniste, la comédienne travaillait beaucoup. Cinéma, TSF, enregistrement de disques, et se forçait à répondre à certaines interviews. Elle sortait rarement le soir, ce qui d'ailleurs l'étonnait puisqu'elle ne jouait plus au théâtre. Travail, fatigue, maturité, inquiétude, elle n'en trouvait pas elle-même la raison. La grande joie restait toujours, après deux semaines d'attente, l'arrivée des chevaliers de la route, comme les appelait Strator, invariablement ironique. Leur labeur n'était plus seulement une affaire commerciale, mais vitale, tant sur le plan matériel que psychologique. Tous les bénéficiaires, à des degrés différents, les attendaient avec impatience. Mais que de difficultés pour maintenir cette ligne, renouveler l'Osweiss, arracher quelques bonds de pneus, dénicher les pièces indispensables à l'entretien du véhicule, l'huile, les graisses. C'était un extrait du roman de Serge Moreau, Un petit train noir au temps des Doriforts, roman paru en 2004 aux éditions de l'Armançon et que l'on peut se procurer soit d'occasion ou emprunter dans les bibliothèques. On marque une pause musicale, c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi et on se retrouve juste après pour la suite de la conférence de Serge Moreau consacrée au théâtre français sous l'occupation. Da 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 da
he uses the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. A story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. She does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Pagnol, je vous l'ai dit, Pagnol, il se tient tranquille en province, il va attendre. Et on va l'emmerder, Pagnol, excusez-moi, parce qu'il y a des jaloux qui disent c'est pas normal, ce gars-là, il a rien fait. Il a... Bon, Pagnol, il s'est occupé dans le Midi, il a fait vivre des gens, son théâtre marchait, et il va redémarrer après. Alors, il y a une chose aussi importante, qui n'est pas vraiment du théâtre, mais que je veux vous signaler. On s'habille très bien pour aller au spectacle. C'est une forme de résistance. Personne n'irait sans avoir une cravate. Même pour aller voir du football, Bébert et Nénès mettent une cravate et une casquette correcte et s'habillent correctement. C'est une forme de résistance. Les femmes sont très bien habillées quand elles le peuvent, quand elles ne sont pas absolument... et on... joue aussi, il y a beaucoup de vedettes qui se baladent, on va au bois de Boulogne. Bien. Et il y a aussi Suzy Solidor, qui est une chanteuse, c'est des gens du spectacle, tout ça. Eh bien, Suzy Solidor, elle est arrêtée à la Libération, parce qu'on dit qu'elle a collaboré. Et il y a pourtant quelqu'un qui vient, parce qu'elle aurait eu une liaison avec un officier allemand. Bien. Mais... après la guerre, elle passe en comité d'opération, et c'est le prince Napoléon qui vient la défendre et qui dit, alors que personne ne savait, qu'elle le cachait à Paris pendant la guerre. Alors vous voyez, c'est tellement compliqué. Il y a tout blanc, tout noir, et au milieu, il y a un mélange épouvantable. Alors Arletty qui est arrêtée après la guerre. Alors autant vous le dire tout de suite, Arletty est homosexuelle. Elle est lesbienne. Bon. Mais pas tout à fait. Et elle tombe amoureuse d'un homme, manque de chance. Une fois dans sa vie, elle tombe vraiment amoureuse d'un homme. C'est un officier allemand. Alors, elle n'a pas de peau. Alors, elle passe en épuration et elle a eu 2 ans d'interdiction de jouer. Et c'est là qu'elle a dit cette phrase que l'on cite tout le temps, qui n'est peut-être pas très vraie, j'en sais rien, il n'y avait pas des enregistrements à l'époque. Elle aurait dit au président qui lui reprochait d'avoir été en contact avec les Allemands, elle commence par dire au président, « Monsieur le Président, vous n'aviez pas besoin de les laisser passer. » Et après, elle continue et elle dit « Mon cœur est français, mais mon cul est international ». Les chansonniers. Que peuvent dire les chansonniers pendant la guerre? Alors, ils jouent sur la faim, sur des chansons un peu... Et alors, il y a des chansonniers quand même qui sont un petit peu qui audacieux. Il y en a un qui disait, avant la guerre, on nous disait, on les aura, on les aura, on les aura. Et bien maintenant, on les a. Et il y a un jour, un gars, Martini, qui sort des coulisses, il n'avait pas prévenu ses copains, et il rentre sur scène comme ça. Jusque-là, on est dans la merde. Il fallait oser. Un jour, il y avait des Allemands au théâtre des 10 heures. Il y avait quelques Allemands qui parlaient très bien français. Il fallait toujours se méfier, même dans la rue. Moi, je connais une personne qui avait une jeune fille de 17 ans qui regardait des parachutistes américains qui avaient été abattus. Et ils passaient près de la gare Saint-Lazare. Et il y avait des salopards qui leur crachaient à la figure en leur disant « c'est par votre faute qu'on est des bombes, etc. » Et puis il y avait une fille qui a osé défendre les Américains en engueulant les salopards qui engueulent. Et elle s'en va, elle était furieuse, elle s'en va, et elle est suivie par un officier allemand, un colonel, dans le métro, qui la rattrape et qui lui dit en parfait français « Mademoiselle, ne recommencez plus jamais ce que vous avez fait. Et si je vous sauve la vie, c'est que j'ai deux filles de votre âge. » Voilà. Il y avait de tout. Et il y avait donc au théâtre des 10 heures, il y avait deux, trois Allemands qui, le théâtre fini, s'habillent avec leurs grosses capotes d'officiers, bien sûr, qui devaient bien parler le français pour aller chez les chansonniers. Et il y avait un gars qui avait du mal à mettre son manteau. Et alors, je ne sais pas si vous savez, oui, au théâtre des 10 heures, il y avait à l'époque une petite fenêtre. Et dans la petite fenêtre, il y avait souvent une femme qui avait la langue bien pendante et qui envoyait des blagues à tous les gens, surtout si un homme arrivait en retard avec deux femmes. Elle faisait signe, le gars s'arrêtait de chanter. Elle disait... Monsieur sort avec son harem. Tout le monde rigolait. Ils avaient des tas de phrases toutes faites, toutes prêtes. Bon. Et elle avait beaucoup d'esprit, Oléo. Elle s'appelait Oléo, comme ça, comme dire. Elle était à sa fenêtre. Et les gens se levaient. Et elle voit cet officier allemand qui avait du mal à passer, à s'habiller. Elle dit, ah ah, pas si facile que ça de passer la manche. Elle a été arrêtée. On a pu la sauver, mais elle a été arrêtée. Elle a été interdiction de travailler. Ça lui est sorti comme ça, et voilà. Bon. Par contre, aux Folies Bergères, il y avait toujours un sketch qui a duré tout le temps. À un certain moment, quatre filles descendaient dans la salle, qui était souvent dans l'ombre, et prenaient des hommes au hasard, là, sur le bord, et les faisaient monter sur scène pour faire un petit sketch. Il y avait un petit concours à faire en une minute, et le premier, il avait un petit flacon de cognac ou un truc comme ça. Bien. Et au hasard, une des girls attrape la manche d'un officier allemand. Alors l'officier se lève, prend la main de la danseuse, lui met un baiser et se rassoit. Et la salle a applaudi. Voilà. Il y a un autre officier allemand qui sauve une Gina Manès, qui était une comédienne, mais qui était aussi une dompteuse. Et un jour, dans la cage aux fauves, il y a un tigre qui s'appelait Royal et qui saute sur la dompteuse. Un officier allemand ouvre la cage, attrape un morceau de bois et tape et tape et tape sur le tigre et la fait reculer. La salle a applaudi. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, on va terminer pour une petite anecdote, un petit truc rigolo. Ah oui, Jean Marais, quand il est pendant l'occupation, il entend parler de la résistance et il veut rentrer dans la résistance. Il a un copain qu'il aime bien et qui sait qu'il est très résistant, et on l'a prouvé par la suite, c'est un comédien qui s'appelait Louis Jourdan, un très très beau comédien, grand, blanc, n'est-ce pas madame? Vous dites oui, c'est vrai, il était beau Louis Jourdan, n'est-ce pas? Merci. Bon, et alors, il y avait donc... Il demande à Louis Jourdan, fais-moi rentrer dans la résistance. Et Louis lui répond, je ne peux pas te prendre, tu vis avec quelqu'un de trop bavard. c'était Cocteau. Bon, ça a aidé Cocteau un peu après la guerre, parce qu'il a vécu avec, c'était l'ami de Jean Marais. Et Jean Marais était adulé. Cocteau était bien aimé, mais Jean Marais était adulé. Et à la Libération, le surlendemain de la Libération de Paris, Jean Marais s'engage dans la deuxième DB. Et Jean Marais était deuxième classe, et on le met chauffeur d'un camion. L'hiver arrive, et l'hiver, les soldats français se trouvent dans les Vosges. Et Jean Marais, encore pire que moi, je vous l'avoue tout de suite, détestait le froid et la neige, surtout la neige. Et Jean Marais, il est dans les Vosges avec une colonne de camions, lorsqu'un des derniers avions allemands qui traînait dans le coin voit la colonne et se met tac 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 à aligner la colonne. Tout le monde saute de son camion et plonge dans la neige. Jean Marais, qui avait une horreur totale de la neige, voit une petite allée cavalière, rentre le camion dans l'allée cavalière et il attend que l'alerte arrive. Parce que l'avion, ça l'amuse, il repasse et tatata et tatata. Ça dure assez bon moment. Et Jean Marais commence à s'ennuyer parce que son coéquipier à côté de lui, il a déjà sauté dans la neige tout de suite quand il y a eu le premier tiraillé. Bon. Et alors, le copain en question venait de recevoir de la part de sa mère un pot de confiture. Eh bien, cette comédienne, c'était Simone Signoret. Je vous remercie.
Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Des shadows, des birds, des doors, des animals, des moods, des blues. Séparé, McCartney, George Harrison, et Ringo Starr et John Lennon. Sixties, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est une conférence que j'avais enregistrée à Tonnerre en mars 2011 lors d'une soirée organisée par la librairie Plume et Images et la bibliothèque municipale de Tonnerre à la ferme de la Fosse d'Yonne. Une conférence consacrée au théâtre français sous l'occupation et assurée par Serge Moreau, dont je vais lire un extrait du roman intitulé « Un petit train noir au temps des Doriforts » paru aux éditions de l'Armançon en 2004. L'aviation alliée maintenant bombarde l'Allemagne par grandes vagues mais n'épargne guère plus la France. Tout ce qui peut être de quelque utilité pour l'ennemi reçoit son passage. Gares, nœuds ferroviaires, ponts en tout genre, usines et parfois même ce qui ne représente aucune utilité. Le 25 juin, la région, atterrée, apprend que Tonnerre vient d'être bombardée. Pourquoi Tonnerre? Personne ne pourra jamais donner une explication. Rien dans cette ville ne peut attirer l'œil d'un avion allié. Le chemin de fer, il court partout, de Paris à Marseille, et se trouve déjà 20 fois coupé. Alors, à 500 mètres de la gare, tout le quartier de Notre-Dame, l'église principale de la ville, devient décombre en quelques minutes. Le tir, pour une fois, fut rudement bien groupé. Parachevant le tout, une bombe explose dans le chœur pendant les préparations de la communion solennelle. 7 pauvres enfants sont tués et une vingtaine blessés plus ou moins gravement. Comprenne qui pourra. Voilà aussi le tour de la Roche-Migène. Puis, le 27, le 30 et encore le 12 juillet. Cette fois, la gare et ses environs n'existent pratiquement plus, rasés. Les voies soulevées, les rails tordus, les locomotives sur le flanc, éventrées. La rotonde un immense enchevêtrement de ferraille. Mais proportionnellement à l'ampleur du bombardement, il s'y trouverait moins de victimes. Les habitants, pour la plupart devenus méfiants, ont fui à temps. Auxerre n'est pas épargné. Le ciel éclate le 17 juillet. Les Alliés sont arrivés à leur fin. Les trains ne passeront plus. Mais pourquoi, au lieu de prendre en enfilade les voies et les ponts, les avions sont-ils passés perpendiculairement? Ce qui diminue la précision du tir et augmente le nombre de maisons détruites et de victimes. Encore des questions sans réponse. Attaqués de partout, les Germains commencent à perdre chaque jour de leur superbe. Les voici connaissant la honte du vaincu ainsi que la peur. On en voit certains de plus en plus fous, de plus en plus dangereux, tandis que d'autres, moins velléitaires, prennent la poudre d'escampette. Impensable 6 mois, voire 3 mois avant. Le premier cas connu a lieu dans Chablis. Carrefour de l'hospice, en plein après-midi, une quarantaine de soldats, d'armes diverses, en pagaille, encadrés par 3 sous-officiers, arrêtent tous les cyclistes passant à leur portée. Chaque homme ou femme doit lâcher son précieux vélo. Mais ces messieurs, ayant trouvé monture à leur taille, attachent quelques affaires au porte-bagages avec de la vulgaire ficelle à machine. Enfin, fusil dans le dos, ils s'élancent pour rejoindre l'Est et la maman patrie. Sont-ils jamais arrivés ? Et les pauvres Chablisiens, dépouillés d'un bien de valeur inestimable, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Voici le 14 juillet. À Noyers-sur-Serein, personne ne travaille l'après-midi malgré l'interdiction faite de manifester de quelque manière que ce fût. Ce jour-là, Laurent va retrouver avec plaisir son vieil ami Maxime, l'anarchiste érudit, l'ermite de la tour de la cave au loup. Tous deux d'un pas tranquille, parlant de tout et de rien, se dirigent vers le monument aux morts. Plusieurs petits groupes, tout à fait par hasard, se promènent déjà sur la longue et belle allée du faubourg. Elle part du prieuré, longe le lavoir ancestral, saute les pontelets des sources, traverse la placette carrée où, sous les marronniers, le monument aux morts fait face à une grande croix moussue, enjambe le Serein par le vieux pont de pierre avant de s'engouffrer dans la vieille ville close par l'étroite porte peinte. De fort bonne heure, une belle gerbe tricolore décore le socle du monument. Soudain, devant les promeneurs ébahis, déboulent 2 véhicules étranges, plats, carrés, découverts, verts pâles. Sur le capot s'étale une étoile blanche. Des hommes vêtus d'habits insolites et coiffés de casques en demi-boule les occupent. Sur l'une de ces drôles de machines, une grosse mitrailleuse, la bande de cartouches engagée, pointe vers le ciel. Ces inconnus descendent de leur siège et lentement s'approchent du monument. D'énormes revolvers pendent sur leur hanche droite. Ils ont 5 ou 6, personne ne saura exactement l'assurer après, et 2 autres restent au volant. Soudain, ils se mettent au garde à vous, saluent, puis remontent d'un pas dégagé dans leurs chars étranges qui démarrent rapidement, tournent sur place avec une étonnante facilité, puis s'éloignent en direction du faubourg. Oh, surprise ! L'un d'entre eux, encore debout, s'écrie avec un drôle d'accent. « Tenez bon, vous autres, tenez bon, on va gagner ! Vive la France !» Les voitures disparaissent. Les Nucériens n'en reviennent pas. Ont-ils seulement rêvé ? Mais qui sont ces gens ? Des Martiens ? Les questions vont bon train. Un jeune homme, assez fier, donne enfin une explication plausible. « Ce sont des Canadiens parachutés sur les plateaux avec leurs véhicules et beaucoup de matériel. Ils sont arrivés début juin et apprennent aux maquisards l'emploi de ce nouveau matériel tout en renseignant par radio l'aviation alliée. Quant à leurs voitures, si bizarres, elles peuvent tout faire, tourner sur place, passer des guets aussi bien que grimper des talus invraisemblables. On les appelle des jeeps. » C'était un extrait du roman de Serge Moreau, Un petit train noir au temps des Doryphores, paru aux éditions de l'Armançon en 2004. Un roman malheureusement plus disponible en librairie puisque les éditions de l'Armançon n'existent plus, mais que l'on peut se procurer soit d'occasion ou emprunter en bibliothèque. C'est la fin de ce wagon livre aujourd'hui sur Radion. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué cette émission, sachez que vous allez la retrouver sur le site d'archives de Wagon Livre via internet en pianotant www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée à toutes et à tous et un excellent week-end de Pâques. Rendez-vous la semaine prochaine, 27 avril, pour un nouveau numéro de Wagon Livre. À très bientôt, merci de votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.